France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Suzanne Gervais.
Ils sont nombreux les voyageurs invétérés dans l'histoire de la musique. Camille Saint-Saëns remporte sans doute la palme, lui qui parcourut le globe, fidèle client des paquebots transatlantiques, grand habitué des traversées de la Méditerranée, au fil de ses 179 voyages à l'étranger. Musicien est dans bien des cas un métier de voyageur. Voilà un point commun avec celui de photographe, car notre invitée est elle aussi grande voyageuse. Enfance au Cambodge, passion pour l'Afrique, le Mali, le Burkina Faso, expédition sous le cercle polaire, la Sibérie en solitaire, la Russie post-communiste, aussi. Françoise Huguier est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis janvier et elle s'échappe de l'exposition qui lui est consacrée à la galerie Art Z dans le 11e arrondissement de Paris pour partager avec nous quelques instantanés musicaux. Françoise Huguier.
Bonjour.
On commence avec Brahms, le début de la sonate pour violoncelle en mi mineur sous les doigts de Rostropovitch. Le choix de cet interprète n'est pas anodin de
Tout
votre
à fait.
Part.
Parce que quand j'étais à Saint-Pétersbourg, il vivait encore. Et donc je l'ai photographié.
C'était à quelle époque ? Début des années 2000 ?
Oui,
si
oui
je me
c'est
trompe
ça.
Pas.
Oui, oui. Et donc effectivement, j'ai pensé tout de suite à lui. Tout de suite.
À cette époque, à Saint-Pétersbourg, rappelons-le,
oui. Il était revenu à Saint-Pétersbourg, oui.
Il y vivait. Et vous étiez
Moi,
dans cette
Moi, je travaillais sur les appartements communautaires à Saint-Pétersbourg. J'ai fait ça pendant 10 ans, en allant 3 mois par an. Et ça a été passionnant. Et j'ai fait un documentaire qui s'appelle Community aussi, qui a eu 2 prix. Et où je raconte l'histoire d'un appartement communautaire. Quoi.
Est-ce que vous y avez entendu de la musique à Saint-Pétersbourg ?
Ben oui, j'allais au concert quand même.
Oui.
Parce que alors j'étais sidérée, parce que dans l'appartement que j'ai filmé, il y avait une petite dame qui en fait faisait le ménage dans une maternelle et elle allait tout le temps écouter des concerts. Ça, c'est vraiment les Russes. Parce qu'elle allait écouter des concerts. Et moi, j'étais sidérée quand elle m'a dit ça. Et c'est beaucoup les Russes, c'est ça. Ils sont habitués, même à l'école, on les amène souvent à des concerts, tout de suite quand ils sont petits. On aimerait bien que ça se passe comme ça en France.
Oui, on aimerait bien.
Oui.
Quelle place occupe plus généralement la musique dans votre vie de photographe et de voyageuse, puisque chez vous, l'un ne va pas sans l'autre, le voyage et la photographie. Quand est-ce que vous écoutez de la musique ?
Tout le temps en voyage. J'ai ce qu'il faut pour écouter. J'avais un iPod. Vous voyez ce que c'est qu'un iPod ? Ça n'existe plus maintenant. J'ai 2500 morceaux. Et donc je l'ai tout le temps avec moi. Et je me souviens à Singapour, j'avais amené, que j'ai fait les classes moyennes à Singapour, et la femme de ménage qui venait, à chaque fois on la mettait avec mon assistant très très fort et on mettait du rock, etc. Elle était complètement affolée.
Et vous voilà. Aimez écouter la musique fort ?
Ah oui.
Oui, parce que vous aimez beaucoup le métal, on va en parler tout à l'heure.
Mais très fort aussi, et mon mari se plaint, il trive que ça fait boîte de nuit. Moi j'aime bien tous les matins écouter très très fort, tout à fait.
Thank you.
Un petit peu de musique d'aujourd'hui avec la première scène du premier acte de Gourou. C'est un opéra en trois actes de Laurent Petit-Girard. Alors l'histoire est assez terrifiante. Les membres d'une secte vivent reclus sur une île sous l'influence de Gourou, leur maître, à qui ils ont remis leur bien et le soin de guider leur vie. C'est un opéra à message qu'il a écrit Laurent Petit-Girard. Il est dédié, il l'a précisé, aux victimes des dérives sectaires. Comment est-ce que vous l'avez découvert, cet opéra ?
Comme j'ai été nommée
à l'Académie
des Beaux-Arts, donc c'est le perpétuel, hein, Petit Girard. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a donné un CD. Donc j'ai écouté et j'ai trouvé ça assez intéressant.
Revenons un petit peu à votre carrière. Françoise Huguier, vous avez alerté sur le péril qu'on court parfois des populations autochtones malmenées. Je pense aux Inuits en Sibérie, c'était au début des années 90. Est-ce que pour vous, être reporter, c'est forcément être engagé ? Parce qu'on est confronté comme ça à la réalité brute.
Je ne sais pas si c'est engagé, mais c'est en même temps très important d'en parler, de le faire en photo et d'en parler. Et par exemple, à Yamal, là, quand j'ai fait... en route pour Bering.
Et,
en Sibérie. En Sibérie, polaire. Donc il y a une presqu'île qui s'appelle Yamal, où il y a ce qu'on appelle les nénettes. Et les nénettes, il commençait à y avoir des champs de gaz. Maintenant, c'est Gazprom. Hein. Et des champs de gaz que j'ai photographiés. Et pour les nénettes qui avaient des troupeaux de rennes, comme il y a un chemin de fer qui a été construit, ça a été une bagarre pour eux. Alors, je pense que ils ont quand même à peu près réussi à garder à peu près leur terre, mais parce que pour le troupeau de rennes, il faut beaucoup de terre. Donc là, effectivement, étant donné qu'il y a Gazprom et puis que ça va jusqu'à la mer Arctique, hein, c'est très riche. Hein.
Donc le reportage a ce pouvoir.
Oui, a ce pouvoir de parler, oui.
De dénonciation.
De dénonciation.
Néanmoins, comment est-ce qu'on arrive aussi à distiller de la poésie? À romancer parfois un reportage.
Un reportage, c'est toujours une poésie. C'est toujours une poésie. Hein. Moi, quand je pars, bon, j'essaye de lire beaucoup, et donc j'ai appris petit à petit tout, petit à petit avec les gens, quoi. En parlant avec les gens. Moi, je passe du temps à parler avec les gens avant de faire les photos.
Parmi tous vos voyages, là, on a parlé de la Sibérie, de la Russie. Mmh. Vous arriveriez à retenir? Un voyage. Moi, j'ai pensé à l'Afrique parce que l'Afrique
non,
a occupé.
C'est la Sibérie.
C'est la Sibérie.
La Sibérie, c'est bien simple. Il y avait des gens qui n'avaient pas vu d'étrangers depuis 70 ans. Hein. Et puis, c'était complètement nouveau pour moi. Et puis, c'était un paysage extraordinaire. La chasse aux morses. Et puis, les différents costumes, les différentes ethnies et tout ça. C'était absolument. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les ethnies. Et en plus, l'usine de Norilsk aussi, parce que je pensais pas du tout trouver une usine comme ça à Norilsk. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'habitais chez le chauffeur, parce que j'habitais chez les gens en général. Il y avait pas d'hôtel. Donc j'ai été c'était le chauffeur du directeur du combinat, parce que les usines on appelle ça combinat. Et par chance, il connaissait très très bien le responsable de la photo. C'est comme ça que j'ai pu rentrer. Parce que maintenant, c'est pratiquement impossible de le faire. Hein. Et ça a été... j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Alors, je sais pas si je suis baratineuse ou si je suis assez maligne, mais en fait, j'y vais petit à petit.
Alors, on va quitter la Sibérie, quand même, et on va partir en Afrique. peu du groove du grand guitariste Mama Sissoko pour atterrir en Afrique dans les années 90. Françoise Huguier, vous photographiez Mama Sissoko pendant sa tournée en Europe. C'est lui qui vous initie même à l'histoire du Mali. Qu'est-ce que ça a de particulier de photographier comme ça des musiciens et ce musicien ?
D'abord, j'ai commencé, j'avais une commande de rock and folk. Je ne sais pas si ça existe encore. Et on m'a demandé d'aller photographier Salif Keïta et Mori Kanté. Mori Kanté, malheureusement, est mort. Salif Keïta vit encore. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Alors, j'étais avec les musiciens. Et puis, celui qui conduisait la tournée, c'était Mama Sissoko. C'est comme ça que j'ai connu. Et au début, je lui ai dit, je vais suivre la tournée de Mori. Il m'a dit, non, les groupies, on n'en veut pas. Donc j'ai dit, alors bon, oui, d'accord, bon. Et alors, en plus, les musiciens... Alors, ce qui était formidable, c'est que les musiciens... Eh ben, ils allaient voir les prostituées, donc photographier les prostituées. Ils me racontaient toute l'histoire des grands empires et puis l'histoire de la musique, les traductions de la musique, dont j'ai appris énormément de choses.
Donc c'est par la musique que vous avez découvert
exactement.
L'histoire du Mali,
exactement.
En l'occurrence.
Exactement. C'est par l'histoire, toute la musique, ça donne l'histoire du Mali parce que toutes ces chansons ont été prises, c'est des chansons qui étaient de village et après quand elles recomposées, par des compositeurs comme Mama Sissoko. Et alors, je voulais dire aussi que tout d'un coup, on a eu un coup de téléphone de Santana. Vous voyez qui c'est, Santana ?
Bien sûr.
Qui dit, mais alors, ce guitariste, je ne sais pas comment il fait, mais je rêve de le rencontrer. Donc on l'a rencontré, et il l'a emmené à Montreux pour jouer avec lui, avec Herbie Hancock. Et il lui a acheté un morceau. Et ça, c'est fabuleux. Et Santana, elle lui disait, mais comment tu fais ? Parce qu'en fait... La guitare mandingue, c'est note par note, hein, c'est pas des accords. Et Santana, il était sidéré, il a dit, moi j'y arrive pas. Donc c'est fabuleux.
C'est un comble. Qu'est-ce que ça avait de particulier pour vous de photographier des musiciens, des concerts ?
Ce qui est fabuleux, c'est que quand ils sont sur scène, c'est la joie, c'est extraordinaire. Quand ils descendent de scène, c'est autre chose. Oui, c'est la vie qui reprend et là c'est pas drôle. Donc c'était intéressant que je prenne la scène et la joie qu'ils ont sur scène. Et puis après, les répétitions aussi, c'est assez intéressant, comment ils créent. Et puis après, la vie de tous les jours. Et là, il y a une énorme différence. Moi, c'est en photo, c'est pareil. Quand je suis en train de faire des photos, tout va bien. Hein. Et quand j'arrête de faire les photos, tout va mal, quoi.
France Musique, Suzanne Gervais.
Et bien loin de l'Afrique, retour en Russie, Prokofiev, le deuxième concerto pour piano, c'est le final, c'est la tempête, Allegro Tempestoso, sous les doigts de Béatrice Rana. Françoise Huguier, dans quelle mesure l'ouïe entre-t-elle en jeu dans votre métier ? Autrement dit, faut-il bien écouter pour bien photographier ?
C'est important. D'abord, en parlant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en parlant avec les gens.
Oui, entrer dans l'intimité des gens.
Entrer dans l'intimité des gens, c'est très très important. Et puis, moi, tous mes copains me disent que j'ai des yeux comme des scanners, mais les oreilles, j'ai toujours les oreilles qui traînent. Hein. Et alors, je suis en train de faire en ce moment une chronique de la rue. C'est-à-dire que quand vous passez dans la rue, il y a des gens qui sont au téléphone, parce que maintenant, tout le monde parle avec son téléphone tout fort, et moi, je marque ce qu'ils disent. Alors, c'est des petites phrases. Hein. Et un jour, je vais faire une chronique autour de moi, des rues que je fais autour de moi, avec « Oui, tu m'emmerdes, pourquoi tu me parles comme ça ?» Excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai dit.
Non, mais c'est ça ce qu'on entend dans la rue,
oui,
parfois.
Parfois. Donc ça, je suis en train de faire une chronique de la rue comme ça. Donc c'est le son aussi. Hein.
Donc la photographie, quelque part, c'est comme peut-être quand on joue d'un instrument de musique, il y a à la fois une hyper-concentration et en même temps, on peut approcher peut-être un état un peu méditatif.
Exactement. C'est vrai que quand je suis en photo, mon assistant, il est sidéré quand on était dans l'usine là, à Rennec, là, en Allemagne, que je fais pour le Grand Paris. Et là, tous les soirs, c'était une catastrophe, tout allait mal. Dès qu'on commençait à 6h du matin, et là, terminé, tout allait bien. C'est terrible, hein.
C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Je rebondis sur le mot usine. On va parler de ces lieux que vous aimez photographier. J'avais envie, juste avant, de vous faire écouter ceci. Nous sommes dans les fonderies d'acier d'un certain Alexandre Mossolov. On reste en Russie. 1926, c'est une œuvre composée en pleine propagande communiste. L'occasion du coup de parler de ce goût pour les usines, pour photographier ce monde ouvrier qui a un côté un petit peu implacable.
J'adore ça parce que d'abord, c'est tout le travail. Il y a la fonderie aussi. Quand j'étais en Allemagne, là, mon assistant il me disait « Tu sais, quand c'est bleu, il ne faut pas que tu regardes. » Alors évidemment, moi je regardais, quoi, parce qu'il paraît que ça abîme les yeux. Et il y a vraiment des compositions de photos à faire, déjà les hommes. Il y a des compositions à faire avec le bleu, justement, avec les étincelles et tout. Même sans les hommes, il y a des compositions à faire dans une usine qui est absolument extraordinaire. Et ça, c'est un vrai plaisir pour moi. Et puis, l'usine, quand je n'ai pas fait ça à Norris, mais en Allemagne, quand j'y étais, je me suis aperçu... La plupart des ouvriers étaient tatoués, donc je les ai fait déshabiller. Ben oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, ils vous ont obéi au doigt et à l'œil. C'est l'occasion de parler de votre nouvel ouvrage, 1992, dans lequel on trouve, entre autres, une belle série sur...
Sur Norilsk, justement, sur l'usine de Norilsk. J'ai eu de la chance de pouvoir la photographier, parce que je connaissais par l'intermédiaire de mon logeur, qui était le chauffeur du directeur du combinat, parce que l'usine ça s'appelle le combinat en Russie. Et donc, il a appelé le responsable de la photo. J'ai eu une chance folle. Maintenant, c'était du temps d'Alcine. Maintenant, avec Poutine, c'est impossible. Moi, j'ai plein d'amis photographes qui ont voulu y aller. C'est impossible.
Donc on retrouve cette série, entre autres, je le disais, dans cet ouvrage 1992 aux auditions de l'Odyssée. La sortie de cet ouvrage s'accompagne d'une exposition à Paris, je le disais en introduction, la galerie RZ, c'est dans le 11e arrondissement. Elle s'appelle « Sur les traces de Françoise Huguier, de Durban à Béring ». C'est une rétrospective,
de votre
travail.
C'est rue Keller.
Jusqu'au 30 juin.
Oui.
Vous aimez les expositions de vos œuvres? Quelle part est-ce que vous prenez à l'installation?
J'aime bien, puis en plus, le jour du vernissage, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que moi, j'explique. C'est comme moi, j'ai fait des expositions dans les musées, donc moi, je me souviens la même, j'y allais tous les trois jours. Et les gens, ils aiment bien qu'on donne des explications. Donc là, c'est ce que j'ai fait hier. Donc aussi bien sur Durban, j'ai expliqué que sur l'Afrique et tout ça, sur la traversée de l'Afrique, et puis aussi le livre 92 aussi. Donc j'aime bien expliquer aux gens, parce qu'ils ont envie d'avoir des explications. Donc je ne reste pas silencieuse.
Dans les expositions. On va se quitter, Françoise Huguier, avec une autre de vos passions musicales, c'est le métal. Vous adorez le métal, on va écouter AC/DC dans un instant. Vous aimez le métal depuis quand?
Depuis que je suis adolescente. Enfin, ça n'existait pas, presque pas, mais depuis que je suis étudiante. Et en plus, j'en ai photographié beaucoup en Indonésie, parce qu'il y a 5000 groupes. Et le président de la République était un guitariste de métal. J'ai même
incroyable.
Pu jouer. J'ai pu jouer, oui.
Incroyable. Alors nous, on ne va pas écouter de métal indonésien. On mettra peut-être un lien ou deux à la page de cette émission pour nos auditeurs. On va écouter AC/DC. Auparavant, je remercie toute l'équipe de notre émission. Dimitri Scapolan, Jason Taous à la réalisation, mais aussi Maud Nouri et Julia Macarez. On continue avec AC/DC. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce groupe? C'est un de vos classiques.
C'est un de mes classiques. J'écoute souvent.
Merci beaucoup, Françoise Huguier.
Je vous en prie, merci à vous. We'll be right back.
à réécouter sur francemusique.fr.